Bonjour Laurénique.
Bonjour.
La toute dernière phrase de ce livre, Avant la peine, dit ceci, il n'y a pas de peine juste, juste des peines. Et c'est, je crois, ce que vous tentez de démontrer dans l'ouvrage. Quelle était votre intention première avec ce roman qui ausculte un viol ?
Alors, c'est une citation d'Henri Leclerc, je le précise après au moment des remerciements. Et c'est une phrase magnifique, un peu désespérée peut-être de l'institution judiciaire qui fait ce qu'elle peut, mais qui dit bien qu'on ne peut pas tout résoudre et que l'institution judiciaire, j'emploie un « on » parce que c'est le « on » collectif du côté des victimes comme du côté des auteurs. L'institution judiciaire répare comme elle peut, mais elle répare avec des mots, elle répare avec du symbolique, elle répare avec des sanctions, elle répare avec de l'argent, mais elle n'efface rien, ni pour les auteurs qui voudraient aussi effacer ce qu'ils ont pu perpétrer, ni pour les victimes, bien sûr.
L'affaire présentée ici oppose Rebecca et Baptiste, médecins urgentistes tous les deux. Baptiste est le chef de service. Rebecca affirme qu'il l'a violée un soir dans la salle de repos. Lui parle d'un baiser, de caresses consenties. Pourquoi avoir choisi de présenter cette histoire dans le milieu hospitalier ? Qu'est-ce qui vous intéressait d'abord dans ce milieu-là ?
Le milieu hospitalier est extrêmement dégradé, comme l'est la justice. Ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est la fonction publique, c'est l'état de nos services publics, de ce qui nous intéresse tous, de ce qui fait société entre nous. Comment pouvons-nous avoir un état de droit avec une justice aussi dégradée ? Comment pouvons-nous vivre ensemble en acceptant que les gens soient soignés sur des brancards, qu'ils ne soient même plus soignés parfois, comme on devrait l'être dans un état qui se dit si riche ? Et c'est pas une histoire de volonté. C'est ça que je voulais montrer aussi, c'est qu'on voit bien que les hommes et les femmes travaillent, que ces deux-là, Baptiste et Rebecca, travaillent, que toute leur équipe travaille, qu'ils restent solidaires malgré ces conditions-là. Et je crois que c'est pareil chez les avocats et chez les magistrats. Ce n'est pas une histoire de volonté individuelle, c'est une dégradation du collectif.
Il y a donc ces deux protagonistes, mais aussi les proches, la famille, les collègues, les avocats, la journaliste. On sent très bien l'onde de choc que provoque une telle affaire. Ça ne se limite pas à l'accusée et à la plaignante, une affaire de viol ?
Oui, c'est ce qui m'intéressait de démontrer aussi, c'est-à-dire, enfin de démontrer, je ne sais pas si je voulais démontrer quoi que ce soit, je voulais montrer, je voulais donner à voir que bien sûr, l'impact, il est terrible parce qu'il y a une violence institutionnelle que l'on retrouve d'ailleurs à l'hôpital, que l'on retrouve dans l'institution judiciaire qui broie plus qu'elle éclabousse les deux qui sont partis, mis en cause ou victimes. Et puis, ça va jusqu'à la famille parce que soit que vous êtes traumatisé par le fait d'avoir été agressé, soit que de toute façon, vous êtes agressé par l'institution judiciaire aussi.
Alors la grande réussite de cet ouvrage, c'est que les deux thèses sont présentées avec la même force. Est-il coupable ? Ment-elle ? Il n'y a pas de parti pris. La quatrième de couverture dit que vous nous faites revivre l'expérience d'un juré d'assises. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Vous savez, on a l'impression que tout le monde a son avis sur toutes les affaires. Lorsqu'on est avocat, c'est un peu difficile de lire des comptes rendus d'audience et en se disant mais personne n'a lu le dossier et puis tout le monde a un avis, comme si c'était facile. Or, ce n'est pas si simple. Et c'est ça que ce livre, j'espère, donne à voir. C'est qu'à partir du moment où on prend le soin d'entendre tout le monde et pas d'entendre seulement un côté, ce qui est parfois le cas d'ailleurs, hein, les avocats, nous on est d'un seul côté, mais comme on défend d'abord un côté et puis l'autre dans une autre affaire, on a les deux sons de cloche et il me semblait très important que les gens puissent comprendre que c'est pas si simple que ça et qu'est-ce qu'on fait en fait. Et l'expérience d'un juré, lorsque vous parlez aux gens qui ont été tirés au sort pour être jurés, c'est quelque chose qui a bouleversé leur vie entière et qui les fait regarder autrement, non seulement l'institution judiciaire, mais l'idée de justice elle-même. Et je voulais espérer d'aller aussi loin que ça.
Il y a beaucoup de nuances, je trouve, dans tous les personnages, sauf peut-être chez la journaliste qui, elle, a un avis très tranché. C'est peut-être la seule qui n'a pas de doute. Ça, c'est une charge contre la presse, d'une certaine manière ?
Non, alors moi, j'ai de la tendresse pour cette journaliste qui peut être à l'image de quelqu'un qui est mu par une volonté de faire savoir, de faire dire, de prendre un parti qui est un parti féministe et de se dire peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux, mais moi, je dois donner à voir. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit tranchée dans ce qu'elle en pense, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle veut qu'on sache. Et ça a des répercussions aussi, le débat public en réalité sur les deux. Donc elle a pas de doute sur le fait qu'il doit y avoir un débat public, en tout cas.
La violence des auditions, de la garde à vue, du dépôt de plainte est également très bien rendue. La justice est quand même un rouleau compresseur, vous l'avez dit. Et c'est une avocate qui en parle. C'est un peu désabusé tout ça, non ?
Désabusé, oui et non. C'est-à-dire que on est une pierre à l'édifice, mais on n'est pas plus que ça. Et bien sûr, quand les gens sont désespérés d'un côté comme de l'autre, on voudrait être plus que ça et ils attendent plus que ça. Et on comprend qu'ils l'attendent, comme on attend tout d'un médecin d'ailleurs. Mais la justice, elle n'est pas là pour soigner et puis que derrière, ça s'arrête. C'est simplement une composante. Donc on a des retours formidables et peut-être que cette affaire pourrait se terminer aussi. Enfin, chacun justement repart avec son idée et peut-être qu'il y a une solution aussi qui pourrait se trouver. Donc, c'est pas un livre des abus, c'est un livre de questionnement.
Et toutes ces questions sur la violence de ces affaires et la violence du monde, d'une certaine manière, tient en 230 pages. Comment vous avez fait pour arriver à cette efficacité-là ?
Alors ça, c'est peut-être aussi une écriture qui vient de mon métier d'avocat. Quand vous plaidez, vous ne pouvez pas avoir de mots inutiles, vous ne pouvez pas perdre votre auditoire. Lorsqu'on écrit, ben, parfois, vous dites que bon, s'il y a 2-3 lignes que vous sautez, c'est pas si grave, que vous allez récupérer votre lecteur. Et à l'oral, on ne peut pas se permettre ça, parce qu'une fois que vous avez perdu quelqu'un, vous ne le récupérez pas. Et je crois que j'essaie d'écrire de cette manière-là, de la façon dont on plaide, avec pas une phrase qui est inutile. Donc je suis à la chasse aux mots permanentes et le manuscrit au fil des relectures ne fait que réduire.
Vous êtes avocate, vous passez là par le roman pour évoquer de tels faits. Quel est le pouvoir de la fiction selon vous par rapport à un essai qui aurait pu aborder toutes ces questions-là aussi ?
Le pouvoir de la fiction, c'est d'être dans la peau de tout le monde. Ce sont des personnages qui n'existent pas, mais qui pourraient être chacun de nous. Et la fiction a aussi ce don de peut-être pouvoir mettre à une place qui dérange et où on accepte d'être dérangé, là où on accepte moins d'être dérangé dans la réalité.
Laure Hennig, vous signez Avant la peine chez Flammarion, un récit féroce sur la violence du monde, de la justice, des services publics, sur le sens des peines endurées et encourues. C'est une des très belles surprises de cette rentrée littéraire. Merci beaucoup.
Merci à vous.